Nous allons passer aux questions de réponse. Comme d'habitude, je vous demanderai de bien vouloir fermer vos téléphones ou les mettre sur silencieux. Et à toutes les personnes qui vont prendre la parole, veuillez vous présenter ainsi que votre organe de presse. Levez la main, nous allons commencer par la gauche. On va vous passer un micro. Identifiez-vous, s'il vous plaît. Première question, pasteur.
Merci pour la parole. Pasteur Chibangu pour l'esprit. Ma première question s'adresse à la CPI, à Mme Florence Marcal. Thomas Lubanga a reçu la peine totale, revenant en combien d'années d'emprisonnement. Ainsi, Bosco Ntaganda serait-il condamné par Koutimas? Mon colonel, qu'est-ce qui s'est passé réellement à Rutshuru alors qu'une trêve était observée permettant aux finalistes des armées d'État de passer leurs épreuves? Pourquoi les FARDC se sont-elles retirées? Au-delà de toutes ces confusions, comment identifiez-vous les FDLR au plus d'emploi? Merci.
Ok, nous avons M. Maldidi pour la CPI. Il va répondre à la première question.
Merci. M. Lubanga a été condamné pour 14 ans d'emprisonnement, mais de cette peine, il faut réduire les 6 ans, il faut réduire les nombres d'années de détention qu'il a déjà passé à la Cour pénale internationale. En fait, c'est 6 ans. M. Ntaganda n'est pas encore jugé devant la Cour pénale internationale. Il y a un mandat d'arrêt contre lui. Il doit être exécuté par l'État congolais, c'est-à-dire qu'il doit d'abord être arrêté et présenté à la Cour pénale internationale pour qu'il soit jugé. D'ailleurs, en ce qui nous concerne, en plus des charges d'enrôlement d'enfants, le procureur a ajouté d'autres charges, notamment viol et pillage et assassinat. Voilà.
Si vous permettez, je pense que la deuxième question, c'est de savoir s'il était possible de le juger par contumace. Quoi, c'est ce que vous voulez savoir?
Non. Il doit être présenté vraiment physiquement devant la cour et éventuellement être condamné.
Ok, merci. Colonel?
Merci pour votre question. Si je la comprends bien, qu'est-ce qui s'est passé à Bunagana? Pour rappel, les rebelles du M23 s'étaient retirés dans le territoire de Rutshuru, à Bunagana, Tianzu et Mbuzi, où ils occupaient les positions, et nous en avions parlé ici durant nos rencontres précédentes. Et le 5 juillet, les FRDC ont lancé une opération sur 3 directions contre les rebelles du M23. Et sur l'axe Bouraï-Bunagana, sur l'axe Bouraï-Mugenga, et ces attaques ont enregistré de faibles progrès, mais des progrès avaient été faits. Le 6 juillet, il y a eu une contre-attaque du M23, à peu près 150 éléments armés du M23, ont attaqué les positions FRDC à Bunagana et ont réussi à capturer les auteurs de Bunagana, et les FRDC ont, dans une dynamique de repli tactique, abandonné la position pour mieux se reconfigurer ailleurs. La force d'Amunisco est restée présente sur les lieux et a continué à assurer sa mission de protection des populations civiles pour qu'aucune exaction ne puisse être commise sur ces populations civiles pendant que les FRDC avaient, dans une dynamique de repli, laissé ces positions que le M23 a occupées. Donc, voilà ce qui s'est passé à Bunagana, dans le territoire de Rutshuru, où le M23 s'était implanté au-dessus des hauteurs de Mbuzi, Tianzu et Bunagana. Quant à la deuxième partie de la question qui a trait à comment peut-on reconnaître les FDLR aux éléments du M23, je considère que cette question reste posée, parce que vous savez bien que dans la dynamique des opérations, il n'est pas aisé de savoir qui est qui, et surtout que la confusion est permise dans la mesure où les gens sont dans des tenues disparates. Donc, à cette question, je ne saurais apporter une réponse qui pourrait vous satisfaire, parce qu'il est très difficile de pouvoir distinguer entre les FDLR et les éléments du M23.
Deuxième question, s'il vous plaît.
Carlos Mopili de la CSFR. Ma première préoccupation, je l'adresse au colonel Bass. Concernant votre mission de la protection des civils, je voulais vous demander comment expliquer que lors de la prise de Routour et d'autres localités, il y a eu un nombre très élevé de bâtisses inhumées, de déplacés de guerre et de morts. Vous pouvez nous expliquer tactiquement comment vous procédez par la protection des civils avec 10 blindés, vous pouvez protéger les civils à l'hôpital dans vos blindés, parce que s'il y a environ 100 000 civils, comment vous pouvez les protéger? Est-ce que cette mission n'est pas pour me donner un adulte à la famille du lait maternel? La deuxième préoccupation, c'est au représentant de la CPI. Nous voulons savoir qui sont les autres coauteurs à part Thomas Lubanga. Parce que jusque-là, vous ne voulez pas appliquer l'article 25 du statut de Rome qui dit que tout celui qui apporte une aide ou qui favorise le crime, il sera aussi poursuivi. Nous, on s'entendait d'autres côtés, c'est-à-dire les chefs hiérarchiques des multinationales qu'on connaît qui sont les faiseurs et ou les producteurs de ces marionnettes là qui sont des Thomas Lubanga. Et aussi, si c'est ça, si vous pouvez vraiment aller dissuasive par rapport aux énoncés du maire, c'est
qu'il vous plaît. Bref, pour donner le temps à d'autres personnes, je vous remercie. Nous allons donner la demander maintenant au colonel Bass s'il peut répondre à la première question.
Oui, merci pour votre question. Je voudrais d'abord corriger. Il n'y a pas eu 5000 morts. Il n'a jamais été dit qu'il y avait 5000 morts. Et maintenant, je viens à votre question principale qui est celle de savoir comment nous protégeons les populations civiles. Évidemment, des mécanismes appropriés existent pour ça. Et vous avez tantôt cité 5 000 ou 6 000 déplacés que j'ai moi-même dans mon propos liminaire introduit. Effectivement, nous avons des mécanismes bien spécifiques qui nous permettent de prendre en compte la sécurité des populations civiles en créant des zones sécurisées et à l'intérieur desquelles nous mettons ces gens-là et nous créons un cordon autour avec nos moyens spécifiques pour contrer toute éventualité ou toute exaction probable qui pourrait être commise sur les populations civiles. Mais par contre aussi, dans le cadre justement de tous ces mécanismes qui sont mis en œuvre pour assurer la sécurité des populations, nous avons déployé des bases opérationnelles à partir des pas loin des grandes agglomérations où nous avons des concentrations de population. Nous avons aussi sur les axes menant aux grands centres urbains où nous considérons qu'il y a de fortes concentrations de population. Nous sommes sur ces axes-là et nous empêchons toute activité des groupes armés allant vers dans le sens de pouvoir susciter ou produire un quelconque effet négatif sur la vie quotidienne des populations civiles. Donc, nous sommes toujours engagés dans cette dynamique et nous continuons à maintenir justement ce mode d'action pour nous permettre au mieux de remplir notre mandat qui est celle de et qui est celui de.
Alors, quand on est en justice, il est surtout question des éléments de preuve. D'ailleurs, je fais marche en arrière, mais ce Thomas Lubanga est poursuivi pour enrôlement d'enfants et le fait d'avoir fait participer au conflit. Ce n'est que pour cela qu'il est poursuivi. Bon, il a été reproché au procureur de n'avoir pas ajouté d'autres charges, mais la réalité est que M. Thomas Lubanga n'est poursuivi que pour cette affaire-là, pour ces crimes-là, et Bosco Tanganda aussi. Monsieur le procureur n'a pas tenu compte d'autres considérations, mais est-il qu'il y a des enquêtes, des analyses qui pourraient concerner des poursuites d'autres responsables pour leur soutien apporté aux milices, aux groupes armés qui ont opéré à l'est du Congo. Mais M. Bosco Tanganda et Lubanga ne sont, et principalement d'ailleurs M. Lubanga, n'est poursuivi que pour enrôlement d'enfants de moins de 15 ans, pas autre chose.
Merci. Marley,
Roger Marley, le Congo, CMCTV. Au dire du colonel Bass, il a confirmé qu'il est difficile de distinguer les rebelles qui opèrent à l'est vu la diversité des tenues bigarrées qu'ils portent. Mais moi, je me pose la question de savoir comment, lors de chapitres de rédition, vous parvenez à distinguer que tel qui se rend et être de l'air, tel qui se rend et de telle autre composante.
Parce que lorsque les personnes se rendent, elles s'identifient par la suite. C'est comme ça qu'on sait d'où elles viennent. Prochaine question, s'il vous plaît.
Merci, monsieur le porte-parole. Je voudrais poser une question au colonel Bass. S'il vous plaît, aidez-moi à comprendre quelque chose au sujet de la protection des civils. Comment se passe exactement votre programme stratégique avec les FARDC? Vous avez dit que vous déployez des forces autour des grands centres. Par exemple, nous avons déjà été à Routoul Centre et à Tiwanja. Vous déployez vos forces tout autour de Routoul Centre. Mais quand même, les rebelles parviennent à entrer et chassent les forces royalistes. Comment se passe votre partenariat stratégique avec les FARDC?
Je voudrais d'abord saluer la bonne coopération qui existe entre les FARDC et la force de la MONUSCO dans justement l'accomplissement de notre mission de protection des populations civiles. Ce qui s'est passé à Rutshuru Centre, parce que vous l'avez mentionné, Rutshuru était défendu en grande majorité par les forces loyalistes, les forces gouvernementales. Et donc, à partir du 8 juillet, suite au succès du F-23 sur Bounagana, le F-23, à partir du 8, a occupé Rutshuru, où il y avait des éléments FRDC qui se sont repliés de Rutshuru pour des raisons purement stratégiques. Donc, nous, par contre, par rapport à tout ça, notre déploiement est resté, je peux dire, cohérent et aussi dynamique autour de ces centres. Maintenant, comment nous protégeons les populations civiles? Je pense que j'avais auparavant répondu à cette question posée par un de vos collègues. Et c'est justement en déployant nos troupes aujourd'hui, par exemple, sur l'axe Bouraï jusqu'à Kibouba, nous avons établi tout autour des grands centres urbains qui sont sur cet axe-là, nous avons établi des dispositifs qui nous permettent de réagir toujours en coordination avec les FARDC, parce que, comme je le dis, nous soutenons mutuellement et nous leur apportons tout le soutien particulier logistique dont ils ont besoin pour leur permettre de faire le travail correctement. Donc, nous continuons à nous déployer. Peut-être que vous estimez que ce déploiement n'est pas suffisant, mais il est en tout cas assez efficace pour nous permettre au mieux de réduire les risques qui peuvent survenir contre les populations civiles de ces localités-là.
Je ne sais pas pourquoi on ne se comprend pas. C'est pourtant très clair. Vous dites comment vous assurez la protection des civils et vous demandez pourquoi Rutshuru est tombé. Vous parlez de deux choses différentes. Vous parlez d'une localité et nous parlons de protection des civils. Si vous posiez la question de savoir comment la MONUSCO est à Rutshuru, il y a eu 100 civils de tués, il y a eu des massacres de civils, là vous parlez de protection. Et la protection ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de déplacés. La protection veut dire aussi que dans le cas où il y a des combats dans une localité, nous allons créer les conditions nécessaires pour permettre à cette population civile de se mettre en sécurité. Si se mettre en sécurité veut dire quitter la localité, c'est ce que nous allons faire. Nous n'allons pas laisser des civils sous des bombes et dire que nous les protégeons. Si la localité est en train, je vous donne un exemple pour que vous compreniez, et sous le feu de plusieurs bombes, de bombes qui sont en train de tomber, qu'est-ce que nous faisons? Nous créons des couloirs nécessaires pour permettre à cette population de se mettre à l'abri. C'est ça la protection des civils. Donc, ne confondez pas protection de localité et protection des civils. J'espère que c'est clair maintenant. Merci.
Oui, Alain Mouzi pour Saint-Madame Télévision. Monsieur le porte-parole, je voudrais revenir sur la chute de Rutshuru qui s'est passée sans une moindre résistance de la part des forces de la MONUSCO, alors qu'une source officielle sûre nous renseigne qu'un élément de la MONUSCO aurait échangé avec les commandements des militants de M23, sur quoi ils ont parlé. Et autre chose, l'accès de militants de M23 à Rutshuru, je dis que la MONUSCO s'est repliée stratégiquement ou c'était une fuite carrément.
La MONUSCO n'a jamais quitté les localités où elle est postée. Je le répète, la MONUSCO n'a jamais quitté les localités où elle est postée. Que ce soit à Bounougana, que ce soit à Rutshuru, la MONUSCO a gardé ses postes pour assurer sa fonction de protection des civils. Et je viens de vous expliquer ce que la protection des civils veut dire. Maintenant, si vous dites qu'on a vu des officiels de la MONUSCO parler avec le M23, mais c'est fort possible. Il faut bien qu'on leur fasse passer un langage. Si on veut leur dire, si vous vous attaquez aux civils, vous allez nous attaquer à nous, on ne peut le faire que si on a des contacts avec eux. Si on n'a pas de contacts avec eux, comment vous voulez qu'on leur fasse connaître notre position sur tel ou tel? Il faut qu'il y ait des contacts, soit directs, soit par d'autres moyens, mais nous devons être en contact avec eux pour leur faire savoir nos intentions et pour connaître aussi leurs intentions. Je crois qu'il y a une dame ici, oui, derrière vous.
C'est Vanessa Bontemo de Canal King TV. En fait, une question sur le plaisir de curiosité. Je voulais savoir, est-ce qu'il ne revient pas à la MONUSCO de protéger aussi les localités? Est-ce qu'il travaille quand même en partenariat avec les FARDC? Est-ce que quand les FARDC sont en mission, on prend déjà, la MONUSCO ne peut pas quand même assurer une certaine, donner une certaine force aux FARDC de pouvoir affronter?
Je vous donne une réponse très simple. La MONUSCO a mission de soutenir les FARDC pour protéger les localités. Voilà la réponse. Nous allons passer sur la droite parce que je pense que les gens s'inquiètent un peu par là. Vous avez le micro sur la droite. Oui, devant vous. Allez-y.
Bon, on va pour le compte de la RTVS 1. Nous voulons savoir exactement en quoi consiste d'avoir cet appui-là de la MONUSCO au FARDC. Comment ça se passe? Pour nous expliquer exactement comment ça se passe, cet appui au FARDC. Et puis, comme vous venez de nous expliquer, bien sûr, la protection de la population civile. Et j'ai une autre question. Est-ce que pensent les bureaux conjoints aux droits de l'homme à propos de l'arrestation de l'éditeur du journal Congo News, Mike Mukebayi?
Oui. Voilà, donc vous voulez savoir comment se déroule l'appui que la MONUSCO apporte au FARDC. C'est un appui qui est clairement stipulé dans toutes les résolutions, aussi bien la 1991 que la 2053 qui vient de sortir. L'appui que la MONUSCO apporte au FARDC est un appui logistique. Logistique en ce sens que c'est les FARDC qui ont en charge la restauration de l'autorité de l'État au Congo et qui ont en charge la prise en compte de toutes les menaces sécuritaires au Congo avec l'appui de la MONUSCO qui est logistique. Cet appui est déterminé aussi par des règles de conditionnalité parce que avant que nous puissions mener des opérations avec les FARDC, ces opérations sont planifiées d'un commun accord. Nous planifions ensemble et nous leur apportons le soutien logistique, aussi bien en allocation de vivres, de carburant et aussi en leur apportant un soutien médical sur le terrain pendant les opérations. pendant tout le moment où les FRDC conduisent leurs opérations, qu'elles soient des opérations unilatérales ou des opérations conjointes, nous sommes sur le terrain pour, afin que les effets collatéraux qui pourraient découler de ces opérations ne puissent pas se répandre sur les populations civiles, nous assurons la protection des populations civiles pour ne pas qu'elles puissent être victimes de ces opérations qui sont menées par le FRDC. Donc, en d'autres termes, notre soutien au FRDC est aussi bien intellectuel, si vous voulez, parce que nous les appuyons dans la planification des opérations, mais aussi logistique, mais cet appui logistique est soumis à des règles de conditionnalité qui sont déterminées par rapport aux auteurs qui sont, aux gens qui sont auteurs de violations des droits de l'homme sur le territoire congolais ou ailleurs. Donc, à partir d'une base de données, quand le soutien est requis, nous regardons, nous prenons ce qu'on appelle le screening pour voir ceux qui ne peuvent pas travailler avec nous parce que nous ne cautionnons pas les violateurs des droits humains. Donc voilà en substance ce que je peux vous dire concernant cet appui. Il est logistique particulièrement et il est soumis à des règles de conditionnalité.
Et quand vous entendez le mot de logistique, pour vous ce n'est qu'un mot. Mais si vous êtes militaire, vous devez savoir que vous ne pouvez pas aller en campagne sans une logistique. La logistique, c'est ce qui soutient une campagne militaire. Et quand vous n'avez pas ça, il n'y a pas, vous ne pouvez même pas penser à aller en campagne. Alors ne prenez pas simplement ça pour un mot, comprenez ce qu'il y a derrière ce mot de logistique, parce que sans logistique, il n'y a pas de campagne militaire. Donnez à la dame qui est en face de nous, en face, tout à fait en face. Mundala, s'il vous plaît, oui, passez un micro. Africa TV.
Le REF Mundala Africa Télévision, c'est toujours par rapport à l'appui que la MONUSCO apporte par DC. J'aimerais savoir dans quel cas alors la MONUSCO apporte l'appui peu au PARDC. Nous nous souviendrons que lors de la guerre du CNDP contre le PARDC, la force de la MONUSCO avait barré la route aux éléments du CNDP au niveau de l'aéroport de Goma. C'est pourquoi le CNDP n'avait jamais pris la ville de Goma. Mais pourquoi dans le cas de Rutshuru, la même MONUSCO n'a pas apporté l'appui peu pour empêcher le M23 de prendre possession de la localité?
Merci. Avant de passer la parole au colonel, je me réjouis que pour une fois, on a reconnu que les forces de FRDC, les forces de la MONUSCO ont fait quelque chose. Merci beaucoup, madame. Je passe maintenant la parole au colonel Bass.
Oui, vous avez parfaitement raison de vous interroger justement sur ça. Mais vous savez, la force de la MONUSCO aussi est tenue par des règles d'engagement qui sont bien spécifiques. Donc, le cas de Goma que vous avez cité en 2008 contre le CNDP était aussi une situation tout à fait particulière qui a nécessité aussi la prise de mesures tout à fait particulières pour justement contrer cette menace du CNDP sur Goma qui était menacée. Donc, en d'autres termes, il y a des règles d'engagement qui nous sont soumises. Ces règles d'engagement sont strictement observées. Et une fois qu'elles sont levées par l'autorité qui a concilié ces règles d'engagement, eh bien, la force de la MONUSCO entrera en action. Mais toutefois, vous savez très bien aussi que la force de la MONUSCO n'est jamais restée inactive face à ces menaces. Je viens de vous dire il y a peu de temps que nous avons engagé les positions du M23 aussi bien avec nos hélicoptères d'attaque en tirant des roquettes sur leur position parce que les populations étaient menacées, ou alors en déployant nos unités blindées qui ont engagé les positions du M23 parce que justement les populations civiles étaient sous la menace de leur feu direct. Donc c'est une façon pour nous de communiquer aussi avec le M23, au-delà de ce que l'autre a dit, nous communiquons aussi avec eux pour leur dire voilà des lignes à ne pas dépasser, parce qu'au cas où vous le dépasserez, voilà ce qui vous arrivera. Voilà en d'autres termes ce que je peux dire pour répondre à votre question, madame.
Et pour ajouter à cela, vous vous souviendrez aussi que le colonel Jules Moutebousi a traversé après que l'aviation de la MONUC à l'époque l'a engagé dans la plaine de la Ruzizi. J'espère que vous vous souvenez de cela. Nous revenons vers la droite, remontez ici. Oui, allez-y. Prenez le micro.
De VOA. Est-ce qu'on peut dire que, étant donné que les FRDC avaient quitté Rutshuru avant l'arrivée des M23, la MONUSCO a jugé mieux de ne pas engager les M23 parce que ça risquerait les vies des civils elle paraissait déjà juger que c'était pas nécessaire de garder contrôle de retour.
Je vous renvoie à votre question vous-même, parce que si il n'y a pas de menace, il n'y a pas de combat, vous l'avez dit vous-même, et que les FRDC s'est replié de la position qu'il tenait pour des raisons bien précises, je ne vois pas pourquoi est-ce que la force de la MONUSCO engagerait tout de suite le M23 qui n'a commis aucune action violente sur les populations civiles. Parce que les populations civiles, il n'y a pas eu de combat. Donc, nous, ce qui nous intéresse, ce qui n'est pas négociable, en tout cas dans le cadre de l'exécution de notre mandat, c'est de voir ou de à la limite de penser que des actions menées par quelques groupes armés ou quelques groupes rebelles puissent quand même avoir des incidences négatives sur la vie des populations civiles. Ceci est intolérable et ceci nous engage davantage à mener notre mission jusqu'à terme.
C'est peut-être l'occasion pour moi de clarifier une chose. Le M23 a sorti des communiqués dans lesquels il dit qu'il s'est retiré de certaines localités et qu'il a remis ces localités entre les mains de la police et de la MONUSCO pour en assurer la sécurité. La MONUSCO ne négocie rien avec le M23. Le M23 a pris ces localités et en demeure et est responsable de tout ce qui se passe dans ces localités. Le M23 dit qu'il s'est retiré de ces localités et dans le même élan dit qu'il a laissé des policiers sur place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le M23 ne s'est pas retiré. Si le M23 s'est retiré de ces localités, ça veut dire que ces localités maintenant sont revenues sous l'administration de l'État, sous l'administration de l'État congolais. Étant donné que ces localités n'ont pas été remises sous l'administration de l'État congolais, pour nous, le M23 ne s'est pas retiré. Ceci étant dit, nous n'avons jamais négocié quoi que ce soit avec le M23 pour les remplacer dans quelque localité que ce soit. Oui, passez le micro s'il vous plaît.
Si, Patrick Alokola pour la Libre Orientale. Je dois revenir à Paul Madidi, parce que c'est l'actualité quand même. Thomas Lubanga, vous l'avez dit, n'est poursuivi que pour enrôlement des enfants dans son armée. Alors, ma petite question est de savoir, est-ce que la Cour a pu apporter de preuves physiques des éléments ou des enfants enrôlés? J'imagine qu'ils doivent être à ce moment grandis, ou peut-être même pas des témoignages de leurs parents. À part les films vidéo que l'on a montrés au sujet de cet enrôlement. La deuxième question, c'est au sujet de chef milice Morgan, le colonel Ladu, qui est aujourd'hui responsable des crimes, je dirais, chroniques. Je pense à ces okapis qui ont été exterminés. Et quelle sanction la communauté internationale réserve à une telle personne? Parce que, en fait, le parc des poules est reconnu comme une protection, sous la protection de la communauté internationale. Merci. Paul?
Oui, effectivement, les juges, en prenant donc la décision de condamner M. Lubanga à 14 ans, ont pris en compte beaucoup d'aspects, notamment le fait, sur base des éléments de preuve qu'on a présentés, le degré de participation de Thomas Lubanga à ce recrutement-là, à son niveau d'instruction notamment, qu'il aurait dû savoir, étant donné qu'il est instruit, qu'il aurait dû savoir qu'enrôler les enfants n'est pas une bonne chose, c'est un crime grave, condamné par plusieurs textes internationaux. Donc, en plus des éléments donc, que vous citez, les vidéos, etc., il y a eu également des enfants, enfin des victimes qui ont été, des témoins qui ont été présents au procès. C'est tous ces éléments-là qui ont été pris en compte. Donc ça n'a pas été fait Gratuitement, non. C'est sur, elle est sur base des éléments de preuve présentés, vus, entendus durant tout le procès.
Mon colonel,
Oui, pour votre question, je dirais humblement que je ne saurais y répondre de manière précise parce que je ne sais pas quelles sont les procédures ou en tout cas les initiatives qui ont été initiées aussi bien par l'ICCN ou la structure ministérielle en charge de ce domaine qui concerne la conservation de la nature. Mais ce que je peux vous dire tout simplement, c'est que Morgane, qui est un braconnier, tout simplement, s'est singularisé de manière vraiment négative en perpétrant une attaque sur le parc des Poulous et en commettant des crimes aussi bien sur le personnel du parc que sur d'autres gens. Et nous avons vu que Morgane est réapparu encore il y a peu de temps, justement pour essayer de s'attaquer à certains camps de déplacés. Mais au-delà de cela, je ne peux pas vous dire, en ce qui concerne la tuerie perpétrée sur les Okapi, je ne peux pas vous dire quelles sont les mesures qui ont été initiées par le gouvernement congolais auprès des structures internationales pour prendre en compte, justement, ces préoccupations.
Nous avons dans la salle notre collègue de UNESCO. Je pense qu'il peut apporter un élément de réponse.
Bien, merci. Comme vous savez, le site des Poulous fait partie de sites du patrimoine mondial qui protège l'UNESCO. Et à la suite du massacre de l'Okapi, je crois que notre directrice générale, Mme Irina Bokova, avait officiellement condamné cet acte. Il s'agit bel et bien d'un crime contre l'humanité. Je crois que si un mandat d'arrêt au niveau du gouvernement congolais est lancé à l'encontre de ces messieurs, soit qu'au niveau international, il y aura sûrement aussi une implication beaucoup plus forte pour pouvoir mettre la main sur
lui. Voilà, ça revient à ce que le colonel a dit, l'initiative doit venir du gouvernement congolais. Je pense que nous avons légèrement débordé, ça ne nous dérange pas, on peut continuer si vous voulez, et sinon pas, on peut s'arrêter. Si vous voulez continuer, Monsieur Omba.
Oui, Albert Omba, numérique TV. Je voudrais ici avoir certaines précisions. Monsieur Roger Miss a dit hier qu'il a démontré, il a parlé de l'implication du Rwanda dans ce soutien au M23 et qu'il y a des preuves. Je voudrais savoir quelles sont ces preuves qu'on a pu réunir par la MONUSCO contre le Rwanda.
Bon, il y a plusieurs éléments de preuve. Commençons d'abord par l'annexe du rapport du groupe des experts. J'espère que vous l'avez lu. Ça contient un certain nombre d'éléments qui démontrent qu'une implication, je dirais peut-être presque jusqu'à un niveau assez élevé des autorités rwandaises dans non seulement l'exploitation des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, mais aussi le soutien aux groupes armés qui opèrent en République démocratique du Congo. Depuis les attaques du M23, d'autres preuves ont aussi été rassemblées. Il y a d'abord des témoignages que la MONUSCO a recueillis. Il y a ensuite des photos qui montrent clairement que certains éléments qui opèrent au nom du M23 portent des tenues qui ne sont pas des tenues FARDC parce que le mouvement M23, ce sont des anciens des FARDC, par conséquent, qui portent des tenues FARDC. Or, on voit des éléments qui portent des tenues qui ne sont pas des tenues FARDC. Ensuite, au niveau de l'équipement, on a remarqué que beaucoup de ces soldats présentés comme des éléments M23 ont des équipements qui ne correspondent pas aux équipements dont disposent les FARDC. Par conséquent, ou ce sont des non-Congolais, ou ce sont des gens qui viennent de l'extérieur. Dans tous les cas, ce matériel qu'ils utilisent ne vient pas du stock des FARDC. Je voudrais parler des tenues, je voudrais parler d'équipement. Nous avons aussi eu l'occasion de nous entretenir avec un certain nombre de ces éléments de M23 qui ne parlent aucun mot du français, qui sont seulement anglophones. Et par conséquent, cela donne des doutes sur leur nationalité congolaise. Parce que ils auraient pu, même s'ils sont anglophones, ils parleraient quand même le français. Or, ils ne parlent aucun mot du français. Voilà donc un certain nombre d'éléments que nous avons pu recueillir et qui permet de croire qu'il y a des éléments étrangers qui sont engagés aux côtés du M23. J'espère avoir répondu à votre question. Oui.
Patrick Mbanga pour l'expression. Je pose ma question, la première question au colonel. Est-ce que vous pouvez me dire combien de zones sécurisées avez-vous créées depuis le début de la guerre de M23 contre les FARC-C? Je retourne chez Paul Madidi. Thomas Lubanga, 14 ans, condamné co-auteur. Vous venez de citer encore, il y a d'autres co-auteurs qui est Bosco Tangata. Est-ce que vous avez des auteurs? Il y a aussi la liste des auteurs. Si oui, est-ce que vous pouvez nous citer ces auteurs? Et la deuxième question,
on va avec le dossier Jean-Pierre Bemba. Mon colonel.
Oui, juste pour vous dire que la sécurisation des zones aussi est fonction de la menace qui est qui pèse sur ces zones-là et que ces zones sécurisées sont changeantes. Justement, en fonction de la menace, une fois que c'est sécurisé et que la menace n'existe plus et que c'est ailleurs qui est menacé, nous nous déployons. Ça veut dire qu'il y a toujours, on est toujours dans une dynamique mobile, une dynamique de basculement de nos forces en tenant compte justement de la menace qui peut survenir ici tout de suite et deux heures de temps après ailleurs. Mais toujours est-il que on reste dans la dynamique de protection des populations civiles, surtout les IDP. Je vous ai dit que nous avions autour de notre base opérationnelle de Kiwanja un nombre impressionnant de déplacés. Et nous avons aussi créé des zones sécurisées, ne serait-ce que pour permettre aux humanitaires qui sont sur le terrain dans ces zones-là de pouvoir remplir correctement leur mission d'assistance aux populations civiles qui en ont besoin. Donc, cette question ne peut avoir une réponse définitive parce que, justement, ces zones sécurisées ne sont pas, elles sont changeantes, elles ne sont pas statiques et définitives. Donc, en fonction de la menace, nous avisons et basculons nos forces en fonction, justement, de ce qui pourrait peser comme menace sur les populations civiles. Donc voilà globalement ce que je peux vous dire là-dessus.
Paul?
En fait, quand on dit co-auteur, hein, c'est eux qui sont français, c'est que les deux, Bosco Tangata et M. Lubanga, partagent leur statut, le statut d'être auteur. Il n'y a pas un auteur, un supérieur, un super auteur et puis les autres co-auteurs. Non, tous les deux, au même titre, sont auteurs l'un à côté de l'autre. En ce qui concerne le procès de M. Bemba, il est pratiquement à mi-chemin. On a jusque-là, dans la première partie, on avait entendu les témoins du procureur avec les éléments de preuve qu'il a présentés. On a également déjà entendu les témoins avec, plutôt les victimes. Les victimes présentées par les représentants légaux des victimes. À partir du 14 août, le temps des vacances judiciaires, à partir du 14 août, va commencer la présentation des éléments de preuve par la défense de M. Bemba.
Voilà. Merci beaucoup. C'était passionnant. Ok, on va s'arrêter ici.
Et rendez-vous le mercredi prochain. Merci beaucoup.